Bonjour, et nous voilà une nouvelle fois sur l'antenne de Radio Galère pour une nouvelle édition hebdomadaire des carnets sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous avons deux invités que je vais vous présenter, mais l'équipe de Comaguerre est là, donc Roselyne en studio. Bonjour. Bonjour. Elle a perdu son micro, mais elle fait signe, un signe d'intelligence, comme on dit, c'est ça. Et puis, Habib, bonjour Habib.
Bonjour tout le monde, bonjour monsieur.
Que je présente bonjour. À nos deux invités. Donc, Habib bonjour, est le fils émérite d'un combattant, donc d'un monsieur qui a combattu pour la France libre, alors qu'il était syrien, donc il s'est embauché dans les troupes gaullistes, et dans sa grande mansuétude, le général, après l'indépendance de la Syrie en 1945, a accordé à un certain nombre de ses anciens combattants sous l'uniforme français, ils étaient 7 ou 800 à peu près, la nationalité française, que ses enfants ont gardée. Voilà, donc Habib est français parce que son papa a failli mourir depuis, pour la libération du territoire national. Voilà.
Il était en France depuis 1940.
Voilà, 1940. Il a fait toute la campagne, la Libye, tout ça. Ouais.
On a cru qu'il avait disparu, puis finalement...
Sa maman et ses enfants n'ont pas eu de nouvelles entre 1941 et 1945.
Les gendarmes français sont venus, ils nous ont dit « Votre papa est vivant, il est à Marseille
». Ça s'arrête pas. Voilà. Donc ça fait partie de l'histoire d'Habib. Et donc vous imaginez qu'il suit pour nous toute l'actualité dans le monde arabo-musulman, puisque ce monde-là est au centre de nos préoccupations. Mais je vais commencer par nous décentrer un petit peu en vous posant une question. C'est sous forme de quiz. Imaginez un pays qui, dans les semaines écoulées, a tenu des élections présidentielles et le même jour des élections législatives, qui ont donné les résultats qu'elles ont donnés. Et puis, la présentation qui en a été faite, c'est qu'il y a un camp qui a écrasé l'autre. Alors, vous voyez peut-être de quoi je veux parler,
bien sûr. Oui, tout à fait.
Bon, alors, vous avez compris. Donc, nos deux invités, dont je laisse se présenter, donc Alain Simion,
de l'association Enfants de Cuba.
Et Jean-François Gast, de l'association France-Cuba.
Voilà, il s'agit de deux des associations qui manifestent en permanence de la solidarité avec Cuba, qui, je le rappelle, j'ai failli en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, il y a quand même 75 ans qu'a eu lieu la révolution cubaine, la prise de pouvoir, donc au 1er janvier 1959.
Tu as eu une discussion avec deux journalistes cubaines, là.
On avait reçu les deux dames qui ont été autrices de vivre sur les médecins, la médecine cubaine. Dont une vit encore à Marseille.
Voilà.
Voilà. Donc, ils sont là pour parler d'une initiative de sept ou je ne sais pas si les deux associations sont signataires de l'appel pour samedi. Oui. Bon, donc, on en parlera. Mais donc, comme ça a été bien vu, il s'agit bien de Taïwan. Taïwan, donc, qui tenait, c'était la semaine dernière, donc des élections à la fois présidentielles et législatives. Et la présentation, alors c'était assez amusant, mais ça confirme la façon dont nous sommes informés, c'est que le camp américain avait gagné. Alors ça, c'est délicieux à entendre. Et puis alors, c'est répété autant de fois que nécessaire pour que le lavage de cerveau soit bien, bien complet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors, en cherchant un peu, on trouve... Mais j'ai pas trouvé tellement sur des sites en langue française, mais j'ai trouvé dans d'autres langues, parce que le monde est très ouvert sur ce genre d'analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, prenons le cas donc, du parti qui était au pouvoir, qui avait la présidence de la République et la majorité absolue au Parlement. C'est le parti qu'on qualifie de parti pro-américain, qui était au pouvoir, d'ailleurs, depuis le dernier mandat. Alors, son résultat, voilà, je vous fais un commentaire qui n'est pas dans les communiqués de victoire. Ce parti est passé de 57% des voix au présidentiel à 40%. Et donc c'est un succès, comme chacun, moins 17%, c'est le bonheur. Bon. Au passage, il a perdu la majorité absolue au Parlement. Il avait 61 voix sur 51, 51 sièges sur 61. Bon. Il est président, mais mal élu, et puis il n'est plus majoritaire au Parlement. Bon. Alors ça, c'est le triomphe continu, c'est grandiose. Bon. Alors, il y avait en face de lui le parti dit pro-chinois. Alors, qui est l'héritier direct du Kuomintang de Chiang Kai-shek, qui, on le sait, s'est installé après 1949 avec la bénédiction des États-Unis pour faire une espèce d'îlot de résistance au communisme largement alimenté et financé par les États-Unis. Ce qui a amené l'économie taïwanaise dans l'état où elle est aujourd'hui. Ce parti-là a aussi pas réussi son opération, puisqu'en fait, il a perdu des voix. Il est passé de 40 à 37%. Et donc, il a diminué en audience. Donc ça veut dire que le camp pro-chinois n'était pas si fort, si tant est que ce soit un camp pro-chinois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu apparaître un troisième parti qui n'est ni l'un ni l'autre, qui n'est ni pro-chinois ni pro-états-unien, et qui apparemment, à ce qu'on en sait, à ses prises de position et à la personnalité de son président, de son animateur, qui a été longtemps maire de Taipei. Alors Taipei, c'est quand même la principale ville, c'est la capitale de Taïwan. Il y a 2,5 millions d'habitants à Taipei. La zone urbaine fait 7 millions d'habitants. Sur 28 millions, c'est pas mal. Donc un monsieur qui a été maire de Taipei, c'est pas un poids léger de la politique taïwanaise. Et son parti, en fait, est passé entre les deux obstacles, c'est-à-dire entre Karim et Silla. Il a dit, mais moi, il a pas dit ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu des voix de gens qui disaient, mais de toute façon, on va s'occuper des problèmes des Taïwanais. Et c'est le début de ce qu'il faut faire. Bon. Et il se trouve que si on ajoute les sièges, alors ce parti a beaucoup gagné en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Bon, il est passé de 5 à 8, c'est pas beaucoup. Mais avec ces 8 voix et les voix du parti du Kuomintang, du parti pro-chinois, je me sens entre guillemets, la majorité parlementaire, elle est là. Donc il est très possible que d'une part, on ait un président de la République mal élu, avec une marge de manœuvre très petite et réduite, et puis qu'on ait une chambre qui ne lui obéisse pas. C'est en gros ça le triomphe états-unien.
Voilà.
Bon, c'est bien de le dire. Alors qu'est-ce que c'est ? Je dis deux mots sur l'économie taïwanaise. Donc elle a été portée à bout de bras par les États-Unis depuis 1949. Elle est passée dans une phase de croissance rapide, comme la population. Et depuis, en gros, les années 80, on voit une espèce de stagnation économique un peu, surtout démographique. C'est-à-dire que Taïwan est aujourd'hui le pays du monde où la natalité est le plus faible taux. On est à 1,2 enfants par femme. Donc les perspectives de disparition de la population taïwanaise sont là presque au bout de la route. Ça, c'est bon à savoir. Et il faut savoir que ce qu'on en sait de la vie des couples taïwanais, il y en a, bien sûr, des jeunes gens, est très difficile. Ils travaillent beaucoup, ils ne sont pas très très bien payés, et les logements sont hors de prix. Bon. Donc voilà ce qui explique aussi l'arrivée de ce troisième parti qui a dit « mais on a des vrais problèmes ». Alors, le conflit entre les États-Unis et la Chine, bon, ça nous dépasse un peu, et c'est vrai que ça les dépasse un peu. Et donc, les voix qu'il a eues, presque 30%, 20 et quelques pourcents, c'est beaucoup. Ça montre un espèce d'état d'insatisfaction de la société taïwanaise. C'est ça la situation. On pourrait développer plus, mais c'est pour éviter de sortir, c'est pour permettre aux auditeurs de sortir de ce discours qui a été dit « le camp états-unien a gagné ». Il n'a rien gagné du tout. En fait, l'île est en difficulté, et ce qui se jouera sur un temps beaucoup plus long, parce qu'il faut savoir que pour la République populaire chinoise, la question, il y avait celle de Macao, il y avait celle d'Hong Kong, etc., la question de Taïwan, qui est une partie de la République populaire, se règle d'ici 2049. Ça a été dit, le Parti communiste chinois est arrivé au pouvoir en 1949, et il a dit, dans 100 ans, nous aurons récupéré notre zone d'influence et notre territoire chinois. C'est tout. Donc, vu d'aujourd'hui, 2024, il reste 24 ans pour clarifier ce problème-là. Il n'y aura pas des bombardements de masse demain, je ne pense pas, bien que ce soit annoncé pour mobiliser la population, parce que tout simplement, la Chine ne veut pas la guerre, et les États-Unis ont compris que si jamais ils faisaient l'erreur de commettre la guerre, ça leur coûterait très très cher. Parce que les États-Unis sont aujourd'hui en difficulté pour arriver à gagner des guerres. Ce n'est pas la seule, mais on le verra. On en a déjà vu, par exemple, en Afghanistan ou dans d'autres endroits. La capacité de nuisance des États-Unis est à un niveau extrêmement élevé. Leur capacité à gagner des guerres est très très faible. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on va nous agiter encore, je n'ai pas nombre d'un doute là-dessus, sur le fait qu'il va y avoir des tensions sur le détroit, etc. Il y aura peut-être des tensions, elles seront entretenues toujours par les mêmes, hein, mais de toute façon, de là à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de tenter, prendre le risque de frapper la République populaire, je pense que c'est un risque qu'aucun militaire américain n'est prêt à prendre. Alors, il y aura des agitations, je ne sais pas, de Trump, du successeur de Biden, ou de Biden s'il n'est pas malade ou mort, enfin, on verra bien, hein, mais... Il n'est pas en bon état. Alain sourit. On voit bien qu'il n'est pas en bon état. Ah non. Oui, un mot, Jean-François.
Oui, un commentaire. Ce qu'il y a de dangereux, notamment pour nous, Français, et pour l'Europe, c'est que les Américains entraînent l'OTAN et entraînent l'ensemble des pays européens dans des gesticulations militaires dans la mer de Chine et de plus en plus très agressives. Non, mais dans la mer de Chine et par rapport à Taïwan. Et en même temps, on a des navires français de guerre qui circulent en mer de Chine sous le commandement américain. Et bon, Ça va dans ce que tu disais, c'est quand même une situation préoccupante, la manière dont l'Europe et notre pays s'immiscent dans ces questions et spéculent sur l'avenir de Taïwan.
Tout à fait. Alors, ça, c'est vrai, ça renvoie à la position néocolonialiste d'un certain Emmanuel Macron, qui fait tout pour faire croire que la France est une grande puissance dans le Pacifique. Alors, je le rappelle, parce qu'on l'a déjà dit, qu'il y a un commandement de la marine française dans le Pacifique qui s'appelle Alpaci, dont le siège est à Papeete, et qui a deux navires. C'est-à-dire on est capable de maîtriser l'océan Pacifique comme des grands, on est en culotte courte. Mais c'est le fait qu'on ait encore la main sur les Kanaks, les Calédoniens, sur les Tahitiens et tous les gens des îles, ça veut dire que Macron peut se permettre de faire croire qu'il est une grande puissance. Il n'y a plus que lui qui le croit, les États-Unis ne le croient évidemment pas, mais c'est un allié. Alors, il n'y a pas toujours des signes d'alignement aussi radicaux. J'en veux pour preuve la tentative de mettre en place une coalition pour la mer Rouge. Et en fait, la France n'a pas marché. La France n'a pas marché. Donc on va avoir des cas comme ça de dissension au sein de l'Union européenne. Et ce qui, au contraire, se renforce, c'est l'alliance entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni plutôt, et les États-Unis, où là, on a affaire à une alliance très très forte historiquement, j'allais dire. C'est de la consanguinité à un niveau pas possible. Sur l'Europe, on le voit aussi avec l'évolution de l'attitude polonaise par rapport à la Russie, enfin toute une série de phénomènes qui fait que l'Europe est probablement moins solide qu'elle ne veut l'apparaître. Et j'ajoute, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, que son rêve d'être le président d'une Europe fédérale est mort-né. Je veux dire, il a plus cours, il ne fonctionne plus. Bon, mais effectivement, c'est un grand débat qu'on a déjà eu sur cette antenne, et merci de nous y faire revenir. Voilà, c'était donc ce petit passage par l'Atlantique et puis par le Pacifique, et ça nous ramène donc à d'autres considérations sur ce qui se passe plus près, donc dans ce qu'on appelle, nous, on a décidé d'appeler ça l'Asie de l'Ouest, puisqu'au fond, oui. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient, et tout ça, c'est des notions géographiques formées par les Européens. Ouais. Donc on les regarde d'une autre façon, c'est bien effectivement l'Asie de l'Ouest, puisque l'Eurasie, du point de vue de la géographie, c'est un seul continent. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des gens plus glorieux que moi, comme le général, qui ont dit que ça s'arrêtait à l'Oural. En fait, ça ne s'arrête plus à l'Oural, parce que manifestement, ça circule dans les deux sens. Et s'arrêter à l'Oural, c'était faire un peu l'économie de l'histoire russe en tant que telle. Car si vous regardez sur longue période, c'est-à-dire sur des millénaires, ce qui s'est passé sur ce grand continent, la majorité des mouvements se sont faits d'est en ouest. Et puis il y a des espèces d'illuminés, j'allais dire. Il fallait être fou pour aller traverser la Sibérie avec les techniques et les moyens qu'ils avaient à l'époque. La Russie a fait le chemin dans le sens inverse. Et elle a été la seule. Mais de fait, elle a unifié d'une certaine façon ce continent eurasiatique en allant chercher la Sibérie et en allant jusqu'à Vladivostok. Ça fait partie de l'histoire. Et donc c'est l'histoire de cette Eurasie qui se continue sous une autre forme. Donc parlons de l'Asie de l'Ouest. Alors, l'actualité, elle est centrée effectivement sur ce qui s'est passé, qui est un événement de taille historique et qui va conditionner beaucoup, au moins la vie diplomatique pendant les mois qui viennent, c'est-à-dire la réunion de la Cour internationale de justice à La Haye.
Ouais, c'est intéressant.
Alors, cette réunion faisait suite, alors je précise, dans la Cour internationale de justice, c'est un organe créé par l'ONU qui prend la suite du même tribunal qui avait été fabriqué par la Société des Nations. On a juste changé le nom, mais c'était la même structure, la même organisation, les mêmes prérogatives, qui est donc chargé de dire le droit. J'insiste sur l'expression, ça veut dire le droit, ça veut dire on me présente un problème, moi je suis une justice, donc je dis sur ce problème qui a tort, qui a raison. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se mette dans l'idée qu'on n'a pas affaire à une justice qui a un bras armé pour faire exécuter ses décisions. Elle n'a pas de bras armé, sauf si le Conseil de sécurité, miraculeusement, j'allais dire, décidait de dire « cette décision de la Cour internationale de justice, je l'applique ». Bon, on voit très bien comment ça se terminerait dans le cas concret. Il y aurait un veto des États-Unis, puis on en resterait là. Mais en abordant ce sujet, la Cour internationale de justice prend un lustre et une taille qu'elle n'a jamais eue sur aucun des conflits sur lesquels elle est intervenue. Elle est intervenue avec succès d'ailleurs dans des conflits frontaliers, je pense au Cameroun, Nigeria, enfin il y a une série de conflits où elle a dit voilà, la frontière pour moi elle est là, et les deux États ont convenu que puisque la Cour internationale de justice le disait, bon, on rectifiait la frontière et on ne se faisait pas la guerre. Il y a eu quelques autres cas qui n'ont pas fait d'effet. J'évoquais l'autre jour le cas donc, du minage des ports nicaraguayens par les contras nicaraguayens. Bon, la Cour internationale de justice a fait un très très gros travail et a dit qu'effectivement les États-Unis avaient mené des actions permanente sous toutes les formes contre le régime sandiniste, et que ça s'était terminé entre autres par le minage des ports nicaraguayens qui les mettaient dans la famine. Mais le jugement était très clair, mais les États-Unis n'ont rien changé de leur politique. Bon. Donc là, on a un niveau supérieur, puisqu'en fait, l'écho de ce qui se passe à Gaza et l'écho de cette procédure dépasse très largement tout le lustre qu'a pu avoir la Cour internationale de justice dans le passé. Ça, c'est parfaitement clair. Et ça amène à une polarisation du champ diplomatique international qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent sur un dossier dont la Cour internationale de justice se serait saisie. Qu'est-ce qui va se passer après ? On va vous dire plus quels sont les... Qu'est-ce qui va se passer après ? On peut espérer, mais il faut qu'il y ait une majorité des 15 juges qui se prononcent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait 8 contre 7, ou mieux peut-être. Qu'il y ait une décision assez rapide sur le fait de la nécessité absolue d'arrêter le massacre à Gaza, ça c'est tout à fait clair. Et après, une fois ceci dit, que cette décision soit respectée par la partie israélienne et par la partie des États-Unis qui est derrière, ou bien on continue comme avant. Et puis après, la Cour internationale de justice continuera son travail pour rendre un jugement, donc un avis, disant qu'effectivement, sur le fond, Israël est bien en train de commettre un génocide avec tout ce qu'il y a en plus, le crime contre l'humanité, etc. Bon. Mais ça prendra des mois et des mois, hein, parce que la Cour internationale de justice travaille comme un tribunal. Elle travaille avec des preuves, des dossiers, des réunions, des rapports, des contre-rapports, etc. Elle ne sort pas comme ça une décision d'un chapeau. C'est pas un sondage d'opinion, il faut bien qu'on se rende compte de ça. Donc il ne faut pas caresser des espoirs excessifs par rapport à une décision. C'est pas facile. Alors, quand on connaît en plus la nationalité des 15 juges, on peut avoir des inquiétudes. La présidente en exercice est une ancienne du département d'État des États-Unis. Il n'est pas évident qu'elle tombe du bon côté. Alors, peut-être elle est respectable, mais il faut... je pense, je ne la connais pas personnellement, un certain courage pour qu'une dame qui est juge à la Cour internationale de justice, qu'elle préside à l'heure actuelle, qui est une ancienne fonctionnaire du département d'État, se mette à pencher dans un côté qui est clairement hostile aux États-Unis, qui sont en cause dans le soutien à l'opération. Donc ne rêvons pas à ce type de décision, parce qu'elle peut d'abord avoir lieu dans très très longtemps, et puis on ne sait pas comment ça va se jouer. Je signale par exemple qu'il est arrivé dans ces 15 magistrats, un magistrat sud-africain, il n'y en avait pas dans le panel qui était là, bon, qui va peser de tout son poids et qui arrive avec énormément de données. Mais est-ce que ça suffit ? On ne sait pas, parce que je dois avoir quelque part la liste des nationalités de ces personnages. Il y a de tout. Hein, il y a un Français, il y a un Anglais, il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Peu importe. Alors retenez cette idée quand même simple que l'affaire n'est pas pliée au niveau de la justice. J'ai là ça quelque part. Alors, je vous l'ai dit. États-Unis, il y a un Russe, un Chinois, un Français, un Australien, un Brésilien, un Allemand, un Indien, un Jamaïcain, un Japonais et un Libanais. Voilà. Bon. On en est là. Donc, alors il faudrait les connaître individuellement. Imaginez qu'aucun d'entre eux n'est soumis à des pressions de son administration et de son pays d'origine. Ce qui est facile à faire, mais enfin, ce n'est pas facile aussi à réaliser, hein, qu'ils soient très très libres de leur mouvement. Et donc, les preuves sont effectivement accablantes. C'est-à-dire le document qu'a remis l'Afrique du Sud, c'est un document de 84 pages, qui s'est nourri, alors j'allais dire, comment Israël a pu commettre l'erreur de proférer tant d'horreurs depuis le 7 octobre 2023, sans penser qu'un jour, ça lui retomberait sur la figure.
Là, et les signataires du CBI.
Oui, alors, en plus, voilà. Alors, la Convention sur le génocide, alors là, l'histoire de la Convention sur le génocide est très très intéressante, puisque la Convention sur le génocide, elle est le produit des réflexions d'un juriste qui a tiré les enseignements du procès de Nuremberg, donc en 1946, qui était un juriste polonais qui s'appelait Raphaël Lemkin. Et qu'est-ce qu'il dit Lemkin ? Ben, il s'est passé un génocide contre les Juifs en Europe. Bon. Et donc, il élabore ce projet de convention contre le génocide, qui est signé en 1948, et un des premiers signataires, c'est Israël. Parce que Israël, en 1948, État tout neuf qui vient de se créer, dit effectivement, je sais ce que c'est. Et tous les gens qui sont aujourd'hui en Israël et qui viennent des zones d'Europe où a eu lieu la tentative d'élimination totale de la population juive, ils sont évidemment contre le génocide. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que... Enfin, ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, c'est que ces mêmes gens qui disaient ça en 1948 ont dit des choses absolument épouvantables après sur la zone où ils arrivaient. Bon. Alors, ça, on le sait. On a compris, et les Palestiniens ont très très bien compris, eux aussi. Donc, la Convention sur le génocide, elle est élaborée en 1948, l'ONU l'a fait sienne, et Israël est un des premiers signataires. Et ça se comprend dans le contexte de l'époque, ils savaient de quoi il s'agissait. Bon. Et donc, cette convention risque de se retourner contre eux, et c'est pour ça que, l'ayant signée... Alors, comment on peut interpréter ça? Moi, j'en viens à réfléchir en disant, il y a une espèce d'impunité qui s'est inscrite dans la pensée sioniste, on peut faire n'importe quoi, il ne nous arrive jamais rien. Et donc, de toute façon, on bloque toutes les résolutions au Conseil de sécurité, ça passe jamais, on peut faire ce qu'on veut, on nous dit de ne pas coloniser, on colonise quand même, etc., etc. Après, on a un coup de pouce de Trump qui dit « Allez, on déménage l'ambassade, on la met à Jérusalem », alors que c'est contraire à tous les textes, y compris de l'ONU. On ne dit rien, l'ONU ne dit rien, donc l'ONU est couchée, Israël fait ce qu'il veut. Bon, on est au moment, c'est un moment historique où Israël risque de ne plus pouvoir faire ce qu'il veut. Bon.
Et on est... Excuse-moi, on peut peut-être rappeler, comme tu le dis à chaque fois, que la Cour internationale de justice, elle ne fait que dire le droit, elle ne condamne pas, enfin, elle ne fait pas de sanctions.
Elle va dire, un tel, oui, il n'y a pas de temps d'année de prison. On ne condamne pas un État globalement, on dit cet État a tort par rapport au cas qui nous est soumis, avec les documents, les preuves qui nous sont fournies, cet État a tort. L'autre, donc, il y a l'autre a raison, celui qui a porté plainte a raison. Bon, c'est tout. Après... Ça pourrait devenir une mesure exécutoire si jamais le Conseil de sécurité s'en emparait et disait « Cette mesure, nous allons décider de l'appliquer ». Mais le Conseil de sécurité, il est comme il est. Donc, voilà.
Il y a
donc,
le droit de veto.
Voilà. Donc ça ne passerait, on voit assez mal les États-Unis dire « Allons-y, condamnons Israël bon. ». Alors après, l'autre aspect des choses concerne la Cour pénale internationale. Là, on est sur un autre terrain. La Cour pénale internationale, c'est une création beaucoup plus récente. Et ce n'est pas une création de l'ONU, j'insiste. La Cour internationale de justice, c'est une institution de l'ONU. La Cour pénale internationale, c'est le résultat d'un traité qui a été signé par 120 pays et qui n'engage que ces 120 pays-là, pas les autres. Et dans les autres, il manque quand même un certain nombre de gros États. Il manque les États-Unis, qui alors ont eu le culot d'avoir été à l'initiative de la Cour pénale internationale et de dire « mais c'est pas pour nous, c'est pour les petits. Moi, je suis le grand, je suis au-dessus de tout ça, c'est moi le maître du monde. Les petits vont à la CPI ». Mais la Russie n'a pas signé, pour la raison que je viens d'expliquer, c'est-à-dire dès l'instant où les États-Unis créent une juridiction où ils ne se soumettent pas, pourquoi la Russie serait assez sotte pour s'y soumettre elle-même ? Même raisonnement pour la Chine. Hein. La Chine est très systématiquement sur la même position. Elle dit, si les États-Unis lancent une politique dans tel et tel domaine, imaginons suppression de la peine de mort, et qu'ils l'appliquent chez eux, à ce moment-là, banco, j'applique le jour même. S'ils disent, la peine de mort, c'est pas bien, et qu'ils continuent à guillotiner ou à électrifier des gens, je ne signe pas parce qu'ils se moquent du monde. Ça, c'est une position chinoise que je rappelle, elle est parfaitement claire et de longue durée. Alors la Cour pénale internationale, c'est une cour pénale. Ça sanctionne des individus. Au pénal, on sanctionne des individus, pas des appareils d'État. Bon. Ce qui va se passer, probablement, ce qui peut se passer dans la meilleure des hypothèses, c'est qu'au moment où la Cour internationale de justice décide de demander un cessez-le-feu immédiat, ça peut être dans 15 jours, dans 3 semaines, on pense que ça peut aller vite. Imaginons que ce soit dans le bon sens. À ce moment-là, ça donne à tous les plaignants qui sont devant la Cour pénale internationale et qui mettent en accusation donc des dirigeants israéliens, chefs militaires, chefs d'état-major, ministre de la Défense, Premier ministre, etc., un argument de poids. Ils arrivent devant la Cour pénale en disant « Moi, je viens pour défendre l'intérêt de M. Untel, dont toute la famille est morte à Gaza, Mme X, dont toute la famille est morte en Cisjordanie. Hein. » Et je m'appuie sur cette décision de la Cour internationale de justice qui dit qu'Israël a tort. Effectivement, ça donne une force considérable à la plainte de tous ces individus, de toutes ces familles devant la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale peut, dans ce cas-là, dire « Monsieur Netanyahou, ou son ministre de la Défense, ou le chef d'état-major, est responsable. » Et s'il est responsable, il y a des peines de prison. Il y a des peines de prison. Donc, on peut imaginer... Alors, dans la meilleure des hypothèses, alors je sais qu'il y a des gens qui rêvent à ça aujourd'hui en disant « si tout ça débouche », mais là aussi, alors il faut tenir compte des délais. Une juridiction, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est pas un sondage d'opinion. Une juridiction, ça travaille avec des preuves, ça travaille avec des documents, ça travaille avec des avocats des deux parties, et donc ça prend son temps. On peut, vu les procès qui sont déjà passés à la Cour pénale internationale, donner des délais, c'est-à-dire que c'est plusieurs années assez souvent. Donc il peut mourir encore beaucoup, beaucoup de monde à Gaza et en Cisjordanie avant qu'on ait ce genre de décision. Il ne faut pas non plus nourrir ces rêves-là. On a parlé assez souvent, puisqu'on le suivait, du procès de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été enlevé en 2011. Son procès a commencé en 2016. Donc il est resté 5 ans en préventive, comme on dit aujourd'hui sous nos régions. Le procès n'était pas commencé. On cherchait des éléments de preuve. Alors il y en avait tellement peu qu'il a finalement été acquitté. Mais il est sorti de prison qu'au bout de 10 ans. C'est ça qu'il faut voir. Donc le plaisir, alors j'ai dit, bon, j'aurais tant de plaisir à ça, des criminels insupportables comme Netanyahou, on en a hélas vu d'autres, j'aurais pas de satisfaction à dire il est en prison. Simplement, s'il était en prison, ça l'empêcherait de nuire. Bon. Ceci étant, le sionisme est assez porteur de personnages de ce genre-là. La preuve, dans son gouvernement, il y a des horreurs encore plus grandes que les siennes qui auraient été prononcées. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de discours sioniste. Ça serait probablement un coup d'arrêt, et ça dirait que cette période-là est en train de se clore. Mais voilà où on en est du point de vue du droit. Il ne faut pas
Le rôle des avocats. Il y a un nombre d'avocats vachement important actuellement.
Tout à fait, alors.
Justement.
Voilà. Il y a beaucoup de monde, et il y aura beaucoup de monde aussi à la Cour pénale internationale, puisque les plaintes qui ont été déposées par des citoyens palestiniens, que ce soit elles sont portées par des avocats qui sont agréés par la Cour pénale, donc ils feront leur travail d'avocat. Alors il y a des centaines de plaintes, parce qu'effectivement, le nombre de morts palestiniens justifie qu'il y ait des centaines de plaintes. Ça, ça fait pas du tout problème. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, je ne vais pas parler. Alors, on en est à 30 000 morts annoncés, plus ceux qui sont sous les gravats qu'on n'a pas encore exhumés. Et ça ne va pas s'arrêter demain matin. Je ne vois pas de perspective. Je ne cherche pas à donner d'un espoir fou aux auditeurs. Il n'y a pas de perspective qu'Israël s'arrête. Israël dans la défense. Alors, je précise qu'il s'agit d'un tribunal. Donc, jeudi, c'est l'Afrique du Sud qui a déposé son dossier de 84 pages pour dire pourquoi elle avait déposé cette plainte. Vendredi, c'est Israël qui a essayé de se défendre. Alors, il a essayé de se défendre de la façon dont il se défend toujours, c'est-à-dire en gros, il met la Bible en avant et puis c'est la Bible qui lui donne raison. Bon. Alors, quand on connaît le caractère non historique des écrits bibliques, en particulier de l'Ancien Testament, bon, ça ne vaut rien du point de vue du droit. Mais c'est sa seule défense. Ça veut dire qu'on sent bien qu'Israël est à bout d'arguments. C'est-à-dire que son discours, il continue à le produire et au fond, maintenant, il n'a plus que la violence. On ne peut plus. Et les États-Unis sont en gros, sur la même pente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le soutien à l'opération de Gaza, les États-Unis s'interdisent d'être écoutés dans le monde entier s'ils arrivent en disant « moi, je suis la démocratie ». Ça, c'est terminé. Cette page-là est tournée. Beaucoup de citoyens de la planète ne peuvent pas entendre ce discours. Nous regardons ce que vous faites, ce que vous dites maintenant, on sait que ça ne vaut rien. C'est du bavardage. Que ce soit Biden ou Trump, on verra bien, les États-Unis sont dans un tel état interne dans l'état de leur population, qu'on ne peut pas dire que leur discours peut être aujourd'hui crédible, où que ce soit. À Cuba moins qu'ailleurs, j'imagine, si jamais il l'a été. Oui, vas-y Alain, dis-nous.
Moi, je voulais simplement dire que ce sont, de mon point de vue, les peuples qui font l'histoire. Le peuple français, sa tâche numéro un, c'est de s'occuper du gouvernement dit français. Parce qu'il n'intervient pas pour la paix. Donc il faut que tous les peuples combattent pour la paix. Et on ne combat pas pour la paix en attendant une décision de justice, même si la justice des textes est importante. C'est la responsabilité de chaque citoyen, notamment dans une république, si nous en sommes encore une. Donc chacun est face à sa responsabilité, à sa conscience. Nous ne pouvons pas arrêter des puissances qui ont des armes atomiques en très grand nombre, des bases militaires, je crois les États-Unis, plus de 800, ouais, qui mènent des blocus contre Cuba, contre l'Iran. Quels que soient les régimes et ce qu'on en pense, ils mènent en fait des actions de guerre pour détruire ces peuples et pour que d'eux-mêmes, ils renversent des gouvernements et mettent des hommes à leurs bottes au gouvernement de ces pays. Il ne faut plus rêver. Et donc on a besoin que les Français, comme les autres, se posent des questions. Parce que notre pays est-il indépendant? Voilà. Nous avons un descendant d'un militaire gaulliste. Je ne le connais pas. Je suis heureux de faire sa connaissance. Je ne pense pas que la France de M. de Gaulle, quel que soit ce qu'on en pense, ses qualités et ses défauts, était à la botte des États-Unis. Alors les Français ont une raison supplémentaire d'agir. Combattre les blocus, combattre la guerre à Gaza, c'est obligatoirement défendre la République française.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, c'est bien que tu le rappelles, parce qu'effectivement, nous sommes liés par des alliances, mais des alliances, on peut en sortir. Il n'y a rien qui nous oblige à rester dans l'OTAN. Il n'y a rien qui nous oblige même à rester dans l'Union européenne. Il y a déjà un pays qui en est sorti, il n'en est pas mort. Bien qu'on fasse des campagnes pour dire « Oh là là, ils souffrent les Anglais maintenant ». Bon, alors, à propos des Anglais, je veux quand même dire deux mots avant de vous laisser la parole. Les Anglais ont encore fait un coup extraordinaire, dans le silence presque. Les Anglais sont très amis avec le sultanat d'Oman. Alors le sultanat d'Oman, c'est important parce que c'est le sultanat qui contrôle du côté ouest le détroit d'Ormuz. Ouais. D'autre côté, il y a l'Iran. Ouais. Donc c'est très important qu'il y ait là un régime ami de l'Occident et en particulier ami de la Grande-Bretagne. Les Anglais viennent d'installer une base de ce qu'on appelle la grande oreille britannique. Donc c'est le service qui écoute toutes les communications mondiales qui passent par les airs. Ça s'appelle le GHCQ, bon, peu importe. Bon. Ça, ils sont installés pour... Alors, installés, vous allez voir la suite, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Ils sont installés pour que de cet endroit-là, de la côte de Oman, il aille un câble sous-marin jusqu'à l'Australie. On est toujours dans le monde anglo-saxon. Ce câble va être dévié par l'îlot de Diego Garcia.
Oui.
On en a parlé la semaine dernière. Hein. Les États-Unis ont mis 300 000 dollars dans la corbeille pour dire ben on va. C'était pas le trajet prévu, c'était un trajet sous-marin classique. Là, on passe par un relais à Diego Garcia. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est en train de mettre, avec l'Australie et les États-Unis, un système de grande écoute sur tout ce qui passe dans les airs et ce qui passe dans les câbles sous-marins, parce que les câbles sous-marins, ça s'écoute aussi avec les moyens nécessaires pour savoir les communications de l'adversaire. L'adversaire aujourd'hui, c'est tous les autres. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans la situation de l'Union européenne. Là, les anglo-saxons sont unis, pour le meilleur et pour le pire, mais jusqu'à la fin pratiquement, pour continuer à dominer le monde alors que le monde ne veut plus leur obéir. Alors le monde, après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays. Tout le monde a une possibilité d'indépendance, de subversion, etc. Tu as tout à fait raison de le dire, Alain. On en est là. C'est-à-dire, regardez bien ce qui se passe. Là, c'était le dernier exemple que j'avais soulevé. C'est un document déclassifié du Foreign Office qui dit, ben voilà, le câble donc stratégique, c'est là qu'il passe. Il faut savoir qu'à Diego Garcia, il y a un système d'interception de toutes les communications aérienne et sous-marine mis en place par les États-Unis sur cet îlot donc de l'archipel des Chagos. Bon. Donc la guerre, elle est prête du point de vue du camp anglo-saxon. C'est pour ça que quand Macron essaye, que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, de dire « je fais partie de cette équipe-là, elle ne le prend pas au sérieux ». Ça a été démontré avec l'histoire des sous-marins pour l'Australie. Bon, Macron se fait croire à lui-même qu'il est important, mais je crois qu'il n'y a plus beaucoup de Français qui le croient. Puis le dernier gouvernement qui vient de former montre qu'il y a de moins en moins de Français. Bon, il y a encore des crédits. Je dis un dernier mot avant de vous passer la parole, puisqu'on parlait de... Tu évoquais la capacité des États-Unis encore à nuire. La capacité est en train de s'exercer probablement en Équateur. Je dis deux mots là-dessus. L'Équateur est depuis quelques jours dans l'état d'urgence. Et c'est le résultat d'une accumulation de crises qui fait suite au débarquement d'Emmanuel Correa, qui a été le seul président qui a tenté d'avoir une position autonome sur le continent latino-américain, au moins pour l'Équateur. Ça venait après des périodes très troublées. Il a été trahi par celui qui l'avait invité à prendre le pouvoir, dans le relais normal de la République, par le Lénine Moreno, bon, qui est tout de suite tombé le lendemain de son élection, il est tombé dans les bras des États-Unis. Ensuite, on est passé chez le banquier Lasso. Maintenant, on est passé entre les mains du chef de la banane mondiale, qui s'appelle M. Noboa. Bon, voilà, l'Équateur est retombé entre les mains des États-Unis. Et en fait, c'est probablement ce qui se passe, le passage à l'état d'urgence, c'est-à-dire l'émergence de bandes dont on dit qu'elles sont liées à la mafia albanaise et tout. Alors moi, quand j'entends mafia albanaise, je me dis, et qui l'a fait venir là, parce que mafia albanaise, on sait ce que ça veut dire dans le cas de la Yougoslavie. Donc ils ne sont pas venus tout seuls. Alors là, c'est un endroit intéressant. C'est un endroit où il faut faire tomber le régime. Parce que M. Correa avait commis une faute qui n'est jamais pardonnée aux États-Unis. M. Correa avait fermé une base militaire américaine sur le terrain de l'Équateur. à base de manasse. Hein. Bon, donc il n'est pas question, ça coûte, ça punit, la punition elle est là. Donc ce que je vois venir, et il paraît que les agents des États-Unis sont sur le terrain, pour, c'est-à-dire qu'on voit des bandes, des trafiquants de drogue, etc., qui sortent de prison, les gardiens les laissent sortir, tout va bien et tout. Du coup, le gouvernement prend cette mesure d'état d'urgence, mais l'état d'urgence, ça permet tous les mauvais coups, y compris la préparation d'un vrai coup d'État qui remettrait au pouvoir les vrais amis des États-Unis. Bon, on va voir. Et donc c'est pour dire que ça continue, et j'allais pour conclure sur l'Amérique latine, là, en prenant les propos de Alvaro García Linera, vous connaissez le personnage, qui a été vice-président de la Bolivie du temps d'Evo Morales, qui a publié récemment un assez gros article où il dit en fait, l'Amérique latine, elle est incapable pour l'instant de tomber dans un camp ou dans un autre, elle est encore trop sous l'influence rooseveltienne mondroenne, et elle, on voit qu'elle réagit à des événements, à des rééquilibrages mondiaux, mais elle n'est pas capable de se rééquilibrer toute seule. Donc l'Amérique latine tombera du côté où l'évolution générale tombera. C'est tout à fait clair et ça me paraît très, très juste. Bon, voilà. Ceci étant dit, j'en ai déjà trop dit. On va passer une toute petite musique donc cubaine. C'est Silvio Rodriguez qui parle de la baie des cochons. Hein, et donc la fameuse expédition états-unienne ratée.
C'est ce qui s'appelle le Playa...
Playa Girón. Playa Girón.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.
Voilà, on passe pas tout pour garder du temps pour nos interlocuteurs. Donc, parlez-nous de votre initiative, puisque c'est pour ça que vous êtes venu nous voir. Une initiative qui a lieu ce samedi à Marseille, au nom donc de vos deux associations. Mais voilà, à vous de nous la présenter. Jean-François.
Oui, merci de cette invitation et de cette annonce. Donc, samedi au Hangar, qui est une institution municipale au Chartreux, dans le 4e arrondissement de Marseille, on a toute la journée... différentes présentations et différentes occasions de discuter de la situation de Cuba, de discuter de la culture cubaine, puisque c'est le thème que l'on a voulu aborder pour cette journée. On a la participation d'un certain nombre, notamment d'un artiste américain. On aura aussi la participation de différents membres de la compagnie théâtrale de rue Joli Môme, qui viendra nous présenter le projet et le partenariat culturel avec d'autres institutions culturelles cubaines. Et ça sera pour nos deux associations l'occasion de faire un point, de rencontrer les gens qui sont intéressés par... l'originalité, la diversité et l'identité forte de Cuba. Et puis, ça sera aussi pour nous l'occasion de découvrir et de redécouvrir un grand film, Soy Cuba, qui sera animé et présenté par notre ami Daniel Bletrac, qui est une sociologue et qui est aussi une grande spécialiste de Cuba et d'une manière plus générale du cinéma. Donc cette journée, elle est sous le signe de la découverte, de la rencontre, mais aussi l'idée que l'on veut discuter avec les gens qui viendront. Et c'est aussi de parler de la solidarité que dont Cuba a besoin et dont nous, en tant que Français, par exemple, on a besoin. Puisque, vous le rappeliez dès l'introduction de votre émission, Cuba, depuis son début, subit, contre toutes les conventions internationales de commerce, de paix, subit un blocus qui est toujours plus renforcé. Actuellement, Cuba vit des moments encore très difficiles du fait de l'application de 240 mesures qui avaient été introduites sous la présidence de Trump et qui compliquent encore plus la vie ordinaire des Cubains. Donc il y a cet aspect de solidarité internationale avec tous les aspects que vous soulignez à travers d'autres conflits, d'autres situations, hein, que ce soit la Palestine, Taïwan, les tensions que l'on a en Europe avec la guerre aussi en Ukraine. À travers la solidarité envers Cuba, envers le peuple cubain qui résiste, c'est aussi un moyen de s'interroger sur nous au niveau français et de réfléchir aux liens que nous avons avec les autres pays. On a aujourd'hui une loi scandaleuse sur les migrations. C'est une loi scandaleuse parce qu'elle remet en cause des principes fondamentaux de la République, le droit au sol, la manière dont on considère les étrangers, la manière dont on ne veut pas s'occuper des migrants qui fuient la guerre, le désastre économique ou alors les désordres climatiques. En même temps, c'est aussi le moyen de s'interroger sur ce qui reste des politiques colonialistes et de la culture colonialiste française. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez exemplaire. Enfin, j'ai deux dossiers exemplaires pour moi. J'ai le dossier du Sahel, où pendant 12 ans, notre pays a mené une guerre sur toute cette Afrique centrale. En dehors de toutes les réalités et des besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de ces pays-là. C'est des pays qui sont très riches par toutes les matières premières que l'on pille, et elles sont immenses, ces matières que l'on pille. Et en même temps, quand on prend le Mali, quand on prend le Niger, c'est des pays qui sont... parmi les plus pauvres du monde. Et notre pays, pendant 12 ans, fort de cet empire colonial qu'il a dû abandonner dans les années 60, pendant 12 ans, on a fait la guerre. Il a fallu piteusement qu'on retire les 6000 militaires français. Et on est bloqué sur cette vision des choses. On a, pour revenir à notre journée, on a... un point de vue, enfin un autre dossier qui est exemplaire et qui c'est le dossier d'Haïti. Haïti, c'est le premier pays qui par lui-même s'est sorti de l'esclavagisme et qui a constitué son indépendance. Et les colonisateurs, il faut quand même le rappeler, c'était la France. Et ce pays-là, la manière dont il a négocié et la manière dont la Société des Nations lui a imposé son indépendance, ce pays-là n'a jamais pu mettre en œuvre ce qu'ils avaient décidé. Et aujourd'hui, ce pays, on parlait de l'Équateur, mais c'est quand même remarquable qu'on ne parle pas d'Haïti, alors que pendant quelques années, ce pays a été abreuvé, soi-disant, de l'aide américaine et de l'aide internationale. Ce pays est à feu et à sang. Et les autorités internationales et les Américains, qui ont une immense responsabilité dans ce foutoir à Haïti, il n'y a aucune perspective. Ces quelques semaines, on a parlé que ce pays-là ne pourrait pas organiser des élections présidentielles. mais il n'y a rien. Et ce que je disais, c'est la manière de nous interroger en tant que Français, en tant qu'Européens, sur notre passé colonialiste, notre passé d'empire. Cuba nous permet tout à la fois d'être présents aujourd'hui sur les enjeux et en même temps de réfléchir tout à la fois à ce qui a fait la force de notre pays, mais aussi de remettre d'une manière différente le développement et une vision internationale de fraternité, de paix. Et quand je dis ça, je pense aussi à ce que l'on a appelé les DOM-TOM, ce qu'aujourd'hui on appelle les territoires d'outre-mer. Là, on nous a fait un flanc terrible avec une tornade sur l'île de la Réunion. Alors, c'est pas du tout le même secteur, mais on sait que la Martinique, la Guadeloupe, ces territoires français sont souvent soumis à des tornades de plus en plus fortes. C'est d'anciennes colonies. C'est des endroits où on a développé pendant plusieurs siècles de l'esclavagisme. Et encore aujourd'hui, quand on voit les difficultés de ces territoires français, on voit bien que le logiciel de notre conscience nationale et de notre conscience culturelle, il a peu bougé dans la globalité. Et donc notre journée sur Art Collectif et Cuba et cette journée sur Cuba, on veut aussi tout à la fois marquer un renouveau de notre action et de partenariat possible avec Cuba, mais c'est aussi un moyen, avec cette solidarité, de réfléchir à notre propre devenir de pays et d'Europe.
Tout à fait. Oui, Alain.
Bien. Moi, j'ajouterais, et je suis en accord avec mon collègue, qui a choisi Haïti, qui est un excellent exemple, par rapport à la comparaison que l'on pourrait faire entre l'avenir du peuple haïtien et le présent, et le présent et l'avenir du peuple cubain. Car la situation, tout en étant très difficile à Cuba, tous les enfants vont à l'école, à l'université, dans des conditions exceptionnelles que nous ne connaissons même pas en France, alors que le niveau de vie des Cubains est extrêmement faible. De notre côté, la médecine cubaine, la recherche sur les médicaments, etc., est de très haut niveau. Elle dépasse très largement ce qui se fait en France aujourd'hui. Nous ne sommes plus en 1960. Haïti s'enfonce, Cuba peut vivre. Et pour empêcher de vivre le peuple cubain, ce sont les États-Unis qui veulent récupérer une colonie. J'ai un exemple dans un livre écrit par Victor Dédage, Cuba sous embargo, où il note que le 19 avril 2019, ce n'est vraiment pas vieux, le faucon John Bolton, c'est-à-dire des responsables des États-Unis liés au système militaire, annonce un tour de vis supplémentaire à l'embargo, alors que tous les Français que je consulte dans la rue, lorsque nous manifestons pour Cuba tous les mois à Marseille, pensent qu'il n'y a plus de blocus à Cuba. Ce qui pose deux questions. Comment un Français d'aujourd'hui peut-il penser qu'il n'y a plus de blocus à Cuba s'il n'y a pas une immense censure sur l'ensemble des chaînes publiques et privées de notre pays? Donc ça pose bien un problème. Non, il n'y a pas de levée de l'embargo. Et donc le 17 avril 2019, les États-Unis l'ont aggravé par l'intermédiaire de John Bolton, nouveau tour de vis à l'embargo, pour la mise en œuvre totale du Helms-Burton Act et donc par l'activation de ses titres 3 et 4 à partir du 2 mai. Tout citoyen des États-Unis pourra porter plainte devant les tribunaux américains contre toute entreprise, y compris étrangères, quel que soit son pays d'origine, opérant sur les très très anciennes propriétés nationalisées par le régime communiste cubain. Selon le département de la justice, 6 000 de ces plaintes seraient recevables pour une valeur de 8 milliards de dollars. Il s'agit bien sûr de dissuader les investisseurs français, par exemple, d'empêcher que du capital étranger entre et ne permette le développement de Cuba.
toutes ces mesures, y compris les restrictions d'envoi d'argent, c'est la population cubaine qui le paie, mais c'est aussi la population mondiale. Car la multiplication des blocus est une gêne au développement économique. Très grave, très lourde. Notre pays en paie aussi le prix. Nous n'avons pas beaucoup de relations avec les pays baltes en ce qui concerne la France, mais nous en avons avec le monde latino-américain. Cuba a envoyé des médecins pendant la période de Covid, il faudrait s'en souvenir quand même, pour aider le peuple français à la Guadeloupe, à la Martinique, qui était en difficulté, puisqu'il n'y a plus beaucoup de médecins en France, et que ça risque de s'aggraver, d'ailleurs, avec la loi immigration, puisque 2000 médecins risquent de quitter le pays. Par ailleurs, Cuba vient d'envoyer des médecins, et il les a envoyés aussi pendant la période de Covid, en Italie. C'est pas un pays extrêmement plus riche que Cuba. Comment se fait-il qu'on en est là? Et je rappellerai aussi, malheureusement, le nombre de morts de l'épidémie de Covid, puisque à Cuba, il y a eu plus de 8000 morts, qu'ils ont étudié et sorti 4 vaccins, alors que la France de M. Macron, cette France minable et américanisée, n'en a sorti aucun. Et que par ailleurs, la Belgique, qui a autant d'habitants et 35 000 euros de revenus en moyenne par habitant, a eu 36 000 morts pour 11 millions d'habitants. Cuba, 8 000. Comment explique-t-on un tel décalage? Personne ne s'y penche. Personne. Pourquoi? Parce que le pays est socialiste. Donc nous défendrons Cuba le 20 janvier. Et je vous invite tous, et particulièrement la jeunesse marseillaise, celle qui va dans les stades, celle qui s'attache au football, celle qui, dans le stade de Vélodrome, lève le drapeau de Che Guevara, et ils ont raison. Et ils ont raison, celle qui veut vivre, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, à venir le samedi 20 janvier de 10h30 à 19h et de voir le film « Soy Cuba » qui a été aussi censuré en France d'une manière fort habile. Merci.
Je voulais ajouter aussi que la Syrie, elle subit la loi César. La loi, l'embargo terrible sur la Syrie. Et la France, elle y participe.
Absolument.
Sur cet embargo. Et en plus de ça, une occupation américaine. Ouais. Sans que les Syriens demandent. Actuellement, il y a une lutte contre ces bases américaines qui se trouvent en Syrie et aussi en Irak. Et il y a une résistance, je pense, qui fait réfléchir.
Puisque je rebondis sur ce que tu dis, là, on a eu un chiffre exact des militaires états-uniens, donc sur les sols de cette région. Il y en a 900 en Syrie, pas beaucoup, mais ils protègent les installations de Conoco, donc d'une compagnie pétrolière. Ça, Trump l'avait reconnu. On est là pour défendre la société américaine. Bon. Il y en a 1800 en Turquie, il y en a 2500 en Irak, il y en a 13500 au Koweït, il y en a 8000 au Qatar, 900 en Jordanie, 3500 aux Émirats Arabes Unis, 2700 en Arabie Saoudite, et 250 à Oman, dont j'ai parlé. Ça fait un total de quasiment 30 000 soldats des États-Unis là-bas, exactement, dont on ne parle pas. Les États-Unis sont partout chez eux. C'est ça. Pas. Et comme la France a la mauvaise idée de suivre, puisqu'il y a des soldats français dans ces zones-là de la Syrie, on en est à cette situation-là de dépendance totale par rapport aux États-Unis.
Alors je peux vous dire que le revenu d'un ouvrier moyen en Syrie est de 13 à 15 euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec c'est vraiment lamentable actuellement.
Le bilan humain de la guerre de Syrie, il faut l'appeler comme ça, qui a été décidé, c'est 500 000 morts.
Exactement.
C'est 500 000 morts aujourd'hui. Ça, on ne le dit pas assez souvent.
C'est tous les gens qui sont obligés de fuir les bombardements.
Et puis il y a eu le tremblement de terre qui s'en est suivi.
Alors on parlait de la France, on va essayer de terminer là-dessus, avec un nouveau gouvernement décidément extraordinaire, puisque la ministre des Sports est devenue ministre de l'Éducation nationale, qu'elle est chargée du dossier des Jeux Olympiques. Ça veut dire, alors, c'est très très clair, la rentrée 2024, ça se décidera, il n'y aura rien qui se passera, puisqu'elle va être le nez sur le guidon pendant tous les mois qui viennent jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc, tant pis pour l'éducation nationale, mais elle a eu une belle promotion. Alors, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, deux mots simplement. On a une position de la Fédération des commerces et services CGT qui dit qu'elle est en train de constater sur le terrain que le droit du travail pour toutes les entreprises qui travaillent sur les chantiers olympiques est en train d'être dynamité sur les heures supplémentaires, sur les primes. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, et on a une espèce d'écho de cette politique dans les affiches de Mme Vassal dans les rues marseillaises, la priorité de la classe politique dirigeante française, c'est réussir les Jeux olympiques. Que nous crevions de faim, qu'il y ait des mendiants dans les rues, que les écoles n'aient pas assez d'enseignants, c'est secondaire. L'important, c'est de briller dans les médias. Hein ? Voilà le gouvernement de la France tel qu'il est. Il faut toujours le souligner, c'est très très fort. Bon. Quant à parler de politique étrangère, puisqu'on sait que le petit ami du Premier ministre a été nommé ministre des Affaires étrangères, son premier geste a été de courir à Kiev. Pour dire qu'on allait encore aider le régime de M. Zelensky. M. Zelensky, qui vit probablement ses derniers jours à la tête de ce pays, qui partira quand ses valises seront pleines et quand ses coffres-forts seront pleins. On trouvera un personnage pour la suite des événements. Il ne compte plus dans le paysage. Simplement, le carnage continue et les difficultés vont continuer pour le peuple ukrainien qui va se retrouver dans un état de pauvreté qui était exactement à l'opposé de ce qu'il était à la fin de l'URSS. À la fin de l'URSS, la République socialiste soviétique d'Ukraine était le pays le plus avancé de l'URSS. On a maintenant le plus dégradé, dont il restera quelques lambeaux, une population qui est diminuée probablement d'une vingtaine de millions d'habitants depuis 1991 et un territoire dévasté. Voilà le résultat des guerres occidentales sur ce territoire-là. Il fallait le souligner aussi. Dernier mot que je vous dis sur les perspectives de l'économie mondiale du côté du camp des travailleurs. Alors tous les ans, l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation de l'ONU, mais qui a précédé l'ONU puisqu'elle a été créée au moment de la Société des Nations, au sortir de la Première Guerre mondiale, publie des perspectives sur le monde du travail dans le monde entier. Alors sur la base des documents qui leur sont fournis par les États, par les patronats, puisque l'OIT est une structure à trois parties, les États, les patronats et les syndicats d'ouvriers, les syndicats de travailleurs. Donc on rassemble tout ça et on donne des perspectives. Alors les perspectives, je vous en donne quelques chiffres. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la main-d'œuvre mondiale, il y a 58% de la main-d'œuvre mondiale qui travaille sans contrat de travail. 58%. Alors, chez nous, vous allez dire, c'est encore un petit peu marginal. On est en train d'y descendre tranquillement. Une partie de la population qui travaille n'est plus couverte par le droit du travail. C'est pour ça que je citais l'exemple du délabrement pour les travailleurs des Jeux Olympiques. Ce qui va se passer aussi, c'est que l'inflation, qui va continuer, on l'a constaté, qui a un peu baissé globalement pour les produits alimentaires, mais c'est un phénomène mondial, va continuer, et que pour l'OIT, il est très clair, pour la très grande majorité des pays du monde, l'inflation sera supérieure à la hausse des salaires. C'est ça aussi qui va se passer dans notre classe travailleuse, et ça on le sent déjà, parce que même si c'est un peu moins cher sur le prix des pommes de terre, ça se voit sur le prix de l'électricité, sur le prix de l'énergie, etc. Bon, voilà les perspectives, et j'allais dire, après tout, on peut tirer la langue aux puissants, il y a trois pays qui pour l'OIT vont faire mieux en termes de salaire des travailleurs par rapport à l'inflation, c'est-à-dire qui auront un gain de pouvoir d'achat pendant l'année 2024, alors je les cite, ça va surprendre, il y a la Chine, la Russie et le Mexique. C'est les seuls trois pays du monde où l'OIT dit cette année, eh bien, ils vont passer au-dessus du seuil, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires dans ces trois pays-là sera supérieure à l'inflation, qui sera à peu près du même niveau qu'ailleurs, mais l'inflation va continuer. Alors, j'allais dire, rassurez-vous, braves gens, non, rassurez-vous pas, c'est très très clair, c'est programmé, puisqu'on sait que cette inflation-là n'est pas une inflation par les coûts, c'est une inflation par le maintien, voire la hausse des taux de profit. Il n'y a rien de plus que ça, c'est-à-dire que c'est le capital financier qui dit « je veux gagner plus hein, ». Et donc je gagne plus, hein, j'augmente les prix, puis c'est tout, j'ai aucune raison. C'est pas... Alors les coûts des transports, on en a parlé plusieurs fois à propos des transports maritimes dans la mer Rouge et ailleurs, les coûts des transports sont quasiment négligeables sur tout ce que vous pouvez acheter qui vient d'un pays lointain, d'Asie par exemple. C'est rien du tout, même si ça a triplé ces dernières semaines à cause des tirs houthis. À propos, je vais je regarde l'heure quand même. Pour les tirs outils, la riposte des États-Unis a été très claire, et de la Grande-Bretagne, les deux. Alors, il faut bien voir, j'insiste là-dessus, l'arrivée de M. David Cameron au Foreign Office à Londres est un signe absolument clair de l'alignement total, j'allais même pire dire, dans la mesure où les États-Unis sont fragilisés par la présidentielle, l'état de santé mentale de Biden, etc., c'est Cameron qui dicte la politique anglo-saxonne en ce moment. Ça joue pour l'Australie, ça joue pour la Nouvelle-Zélande, ça joue pour le Canada. C'est bien ça, c'est l'homme de la situation, il faut bien le voir. Et la perfide Albion est toujours là, je m'excuse de revenir sur ces vieux mots. Le vice en politique internationale, c'est une création de l'Empire britannique. On y est en plein. Mais ils sont de plus en plus minoritaires. Tout le monde ne joue pas dans ce jeu-là. Et c'est ce qui se passe. Parce que, en fait, les Houthis n'ont pas été détruits par les frappes de samedi et de dimanche dernier. Les Houthis sont bien armés. Les Iraniens les aident. Et donc, la guerre va continuer. Mais avec un camp qui est en train de s'apercevoir qu'il ne peut plus gagner. Et qui va donc se réfugier, comme l'a fait la délégation israélienne à la CIJ. On met la Bible en avant comme seul monument, comme seul rempart au mensonge politique qu'est le sionisme et qui est une catastrophe pour l'humanité dans sa totalité. Voilà. Merci de votre attention. Merci à nos deux visiteurs.
Merci à vous.
Beaucoup de succès dans votre initiative de samedi. Et on se retrouve. Merci Roselyne. Merci Habib. On se retrouve mardi prochain à la même heure. Au revoir.
Au revoir.
Ah oui, c'est vraiment catastrophique.